Et nous sommes le jeudi 7 novembre, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, une journée pour dire non au harcèlement scolaire qui touche un enfant sur 10, du racket à l'insulte en passant par les violences physiques et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Les assurances scolaires proposent désormais soutien et assistance. On voit ça, Agnès, en détail après les autres titres.
Faites vos jeux, rien ne va plus. La Française des Jeux vous ouvre son capital. Le groupe hôtelier Hayat ouvre lui ses portes à 10 000 jeunes sans formation dans le monde entier. La colère de la Turquie qui menace d'extrader les djihadistes étrangers. Et puis Jean-Louis Aubert au Bataclan ce soir. Pour lui, c'est là que tout a commencé.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Il dit qu'il en avait gros sur la patate. C'est sans doute pour ça que son nouvel album est aussi politique, violent, mais aussi sexuel et finalement assez génial. Événement sur Inter. Philippe Catherine sera là toute la journée. Ça commence à 7h50 et vous savez quoi ? On l'attend avec impatience.
Avec impatience. À tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le tout nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. J'ai nommé Damien Abad. Il répondra à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est vraiment la peur que ça commence comme avant qui m'empêche d'aller au collège. Vraiment, je me vois pas déjà sortir de chez moi toute seule. J'arrive pas à faire tout ça, en fait. C'est trop dur. Même de passer devant mon collège, limite, je fais des crises d'angoisse. Je pense que je suis pas encore assez guérie. J'ai plus du tout confiance en moi, alors qu'avant, j'avais confiance en moi.
Témoignage de Lou, 14 ans, harcelé dans son collège de l'Essonne, déscolarisé depuis 2 ans et hospitalisé à plusieurs reprises. Le harcèlement scolaire, un phénomène longtemps resté tabou, encore diversement pris en charge aujourd'hui. Mais les assurances scolaires proposent désormais une garantie spécifique. Sonia Princé.
Les assureurs sont maintenant sensibilisés et formés eux aussi à la prévention du harcèlement. Stéphane Guiraudy, directeur du département assurance à la MAE, leader du secteur scolaire, a vu les cas augmenter de 40% d'une année sur l'autre.
Les familles, elles vont nous déclarer, par exemple, que leur enfant s'est fait éventrer le cartable, que leur enfant a été victime d'insultes répétées. Ils vont nous préciser également qu'elles ont été rackettées. Souvent, ça commence par un petit quelque chose et puis après, ça va crescendo de pire en pire. Nous, on va être amenés à qualifier les faits qui nous sont précisés par les parents un harcèlement, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte que c'est constitutif de harcèlement.
La MAE, par exemple, propose alors un soutien psychologique, comme le précise le président Philippe Bénet.
Nous proposons 5 séances de soutien psychologique auprès d'un psychiatre, d'un psychologue de son choix, sans dépôt de plainte, sur la parole de la famille. On le rembourse à hauteur de 40 euros par séance. Les séances chez le psychologue, chacun sait que c'est peu ou mal remboursé ou pas du tout. Donc toutes les familles n'ont pas la possibilité de faire. Nous sommes là aussi pour les familles qui ont peu de moyens financiers.
Il y a aussi une assistance par téléphone pour informer les parents sur l'irréputation, l'image que leurs enfants ont sur Internet, afin de se prémunir contre le cyberharcèlement.
Et il existe un numéro gratuit pour signaler les faits de harcèlement, c'est le 30-20.
Il est 7h03, Agnès, et c'est le jour J pour la FDJ.
Avec le début donc aujourd'hui de la privatisation de la Française des Jeux, petits porteurs comme gros investisseurs ont 12 jours pour acheter des actions dont le prix sera compris entre 16,50 € et 19,90 €. Le montant définitif sera annoncé à l'issue de la souscription. L'État espère intéresser les particuliers et pourquoi pas les joueurs eux-mêmes. Des joueurs qui semblent pour l'heure assez sceptiques. Reportage de Steven Goyer.
Depuis quelques jours, la Française des Jeux s'applique à trouver de nouveaux investisseurs.
La Française des Jeux entre en bourse. Bientôt, vous pourrez investir dans une entreprise performante.
Seulement dans ce bureau de tabac, le message a un petit peu de mal à passer. Ici, on gratte, on coche des grilles avec ses 2 tickets à 3 euros en main. Kamel, par exemple, n'est pas prêt à se lancer dans le grand bain des actionnaires.
Non, je ne connais pas assez. De toute façon, on ne peut pas... Quand on ne sait pas nager, il ne faut pas s'éloigner.
De la défiance aussi chez René, mais cette fois, pour une question de principe contre la privatisation de la Française des Jeux.
Je pense que c'est une erreur, surtout. Le fait que c'est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent, mais qu'on brade comme les sociétés d'autoroute.
Et puis il y a les spécialistes comme Jean-Pierre.
J'ai été longtemps boursicoteur dans les années 90.
Lui ne se lancera pas dans l'achat d'actions, en tout cas pas tout de suite.
Malgré l'action gratuite, parce que je pense que ça va baisser. Comme beaucoup d'actions, hein, regardez EDF, regardez Renault, c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais bon, j'exclus pas d'en acheter par la suite.
Si le gouvernement veut faire de cette ouverture de capital un succès populaire, les joueurs semblent encore réticents à passer du ticket à gratter au pari boursier.
Et l'opération devrait rapporter à l'État entre 1,6 milliard et 2 milliards d'euros. L'évacuation en cours des campements de migrants installés au nord de Paris, de la Porte de la Chapelle à Saint-Denis, décision du ministère de l'Intérieur. 600 policiers mobilisés ce matin. Depuis plusieurs mois, entre 1500 et 3000 personnes dorment sous des tentes dans des conditions toujours plus précaires. Elles seront mises à l'abri, ont annoncé les autorités. De son côté, le Secours catholique publie aujourd'hui son rapport annuel et s'alarme du nombre croissant d'étrangers qui sont obligés de demander de l'aide en raison du durcissement de la politique d'accueil. Cela représentait l'an dernier près d'une personne sur deux. Sortir de la précarité et du chômage, une opportunité pour 25 jeunes issus de quartiers difficiles. Une grande chaîne internationale d'hôtellerie qui a du mal à recruter a décidé de former elle-même ses futurs salariés. Et Philippe Lefebvre s'est rendu dans un grand établissement de la Porte de Maillot à Paris où les premiers jeunes viennent d'arriver.
Quand il traverse le hall de l'hôtel, Samir, 18 ans, est encore un peu mal à l'aise. Il y a à peine 4 mois, il était loin d'imaginer que ce très chic hôtel parisien deviendrait son lieu de travail.
J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, moi qui viens de nulle part en quelque sorte, de Saint-Ouen. Pourquoi moi à ce moment-là? Je veux dire, il y a plein de gens qui ont fait des diplômes, ça aurait pu être eux qui auraient pu être sélectionnés. J'ai prévu de commencer en tant que serveur et j'espère atteindre le niveau du DRH.
Au total, 25 jeunes, essentiellement de banlieue parisienne, vont donc profiter d'une formation express de 4 mois au métier de l'hôtellerie dans les 9 établissements français de cette chaîne américaine. Et pour Michel Moreau, directeur général d'Hyatt France, l'objectif du groupe au niveau international est beaucoup plus ambitieux encore.
Recruter d'ici 2025 10 000 jeunes qui sont souvent en situation de non-emploi, non-projet professionnel. Notre objectif, c'est de leur offrir un CDI.
Quant à Moussa Camara, le fondateur de l'association Les Déterminés à l'origine de l'initiative, il ne doute pas que ces jeunes s'adapteront facilement à l'univers de l'hôtellerie, mais surtout à ses contraintes.
Moi, je sais qu'ils seront capables de relever ce défi-là. On est bienveillant avec eux, mais on leur dit la vérité sur le monde et les règles du monde du travail.
Reste qu'en dehors de quelques initiatives, l'hôtellerie peine à recruter aujourd'hui les 300 000 salariés dont le secteur aura besoin à l'horizon 2022.
Changer Paris, c'est l'objectif de Rachida Dati, désignée tête de liste Les Républicains pour les municipales de l'an prochain. Ses priorités, la sécurité, la propreté, l'écologie, la santé, les familles avec un prix de cantine maximum de 3,50 euros contre 7 actuellement.
Il est 7h07, la Turquie hausse le ton face aux pays occidentaux qui ne veulent pas rapatrier leurs ressortissants membres de Daesh.
Et notamment les pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ont déchu de leur nationalité leurs ressortissants pour ne pas avoir à les rapatrier. Hier, Ankara a même menacé d'extrader certains d'entre eux. Les précisions à Istanbul d'Anne Ondler.
Nous ne sommes pas un hôtel pour membres de l'État islamique. La formule signée du ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, est abrupte, mais elle exprime la lassitude des autorités d'Ankara face au nombre grandissant de djihadistes étrangers détenus dans le pays et leur rancœur vis-à-vis de certains pays d'origine. Ankara presse notamment les capitales occidentales de récupérer leurs ressortissants capturés dans le cadre de sa dernière opération dans le nord de la Syrie. La Turquie a bâti des prisons dans les zones concernées par ses deux précédentes offensives et le discours officiel consistait pour l'instant à dire qu'Ankara privilégiait un retour des djihadistes dans leur pays lorsque cela était possible ou un maintien dans des geôles turques en cas de refus de ces États. Depuis peu, le discours s'est durci, notamment vis-à-vis des pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ont déchu de leur nationalité des djihadistes présumés pour éviter d'avoir à les récupérer. Le ministre turc de l'Intérieur a été clair.
Ces pays nous disent, jugez-les là où ils ont été arrêtés. Évidemment, c'est inacceptable. Nous renverrons dans leur pays les membres de Daesh que nous détenons, qu'ils aient été ou non déchus de leur nationalité.
Selon les chiffres officiels, près de 1200 membres étrangers du groupe État islamique sont actuellement détenus en Turquie. Ankara affirme par ailleurs avoir capturé 287 djihadistes et membres de leur famille dans le cadre de son offensive récente contre les forces kurdes en Syrie. Un Anglais, Istanbul, France Inter.
Retour en France avec le vote hier soir au Sénat de la proposition de loi LR contre les violences au sein de la famille. 129 féminicides recensés depuis le début de l'année. Et en visite sur l'île de la Réunion, Marlène Schiappa a annoncé une enveloppe supplémentaire de 800 000 euros pour lutter contre les violences conjugales dans les territoires d'outre-mer où le sujet est encore souvent tabou. Mathilde Dehimi.
La Réunion recense 5 nouvelles plaintes de violences conjugales par jour, 6000 interventions de police par an pour ce motif. Des chiffres en deçà de la réalité, estime Nadine Caroupanin, directrice régionale aux droits des femmes.
On a une partie de situations qui ne sont pas révélées,
et pour lesquels il faut aller vers les familles, aller dans les quartiers pour mieux les dépister. Le sujet est d'autant plus tabou dans une société comme la nôtre où de génération en génération, les femmes ont subi des violences dans le silence et l'intimité des familles.
Malgré les tabous, la parole se libère. Dans les ateliers de réflexion revient très souvent la demande d'augmenter le nombre de places en hébergement d'urgence temporaire, seulement 22 dédiées aux violences conjugales. Certaines souhaiteraient aussi quitter l'île pour échapper à leur conjoint violent, mais elles ont besoin d'une aide financière. Les armes blanches sont aussi un problème, explique Nadine Karoupana.
À La Réunion, en fait, la gifle prend souvent la forme du coup de sabre à canne. L'arme blanche est particulièrement utilisée dans les actes de violence. Donc, dès une situation de signalement, la réquisition des armes blanches me semble être une bonne solution.
Le numéro d'appel national, le 3919, est disponible à La Réunion, mais le décalage horaire est défavorable. Les Réunionnais demandent donc à disposer d'un numéro local.
Encore des perturbations sur la ligne SNCF entre Dax et Morsang, sans raison des mauvaises conditions météo au moins jusqu'à demain midi et puis des perturbations demain sur les TGV Est en raison d'une grève des contrôleurs. Mission accomplie pour le PSG, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après une victoire 1-0 hier soir face à Bruges au Parc des Princes, but signé Icardi. Qualification également de la Juventus de Turin et du Bayern de Munich.
Jean-Louis Aubert, ce soir au Bataclan.
4 ans, presque jour pour jour après les attentats du 13 novembre, l'ancien chanteur de téléphone s'installe dans la salle du 11e arrondissement de Paris. Ce soir et pour 8 dates, après sa tournée version XXL avec les Insus, Aubert revient à une forme de simplicité avec un album solo intitulé Refuge. Mathieu Culeron.
Bien sûr, mon amour, on va traverser.
Jean-Louis Aubert n'a pas choisi la salle du Bataclan par hasard. C'est finalement là que tout a commencé pour le chanteur de téléphone.
C'est peut-être le ventre où je suis né musicalement, quoi. En fait, je viens ici depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Et en fait, c'est un tout petit acte de résistance de venir jouer ici, d'avoir choisi cette salle. Voilà, ça me fend le cœur parce que je comprends très bien, par contre, quand on passe la porte la première fois, on pense à ces choses terribles qui se sont passées, mais je veux pas que cette salle devienne un parking ou un supermarché.
Parfois, je me sens si loin d'où je viens.
Après 9 ans d'absence en solo, le revoici avec son album le plus personnel, le plus introspectif aussi.
Cette première chanson qui ouvre l'album, je vous disais qu'il faut peut-être 50 ans pour faire un album comme ça. Cette chanson, je pense qu'elle a 45 ans, puisqu'elle date d'avant téléphone. Curieusement, la personne qui l'a écrite parle comme si elle avait mon âge. C'est peut-être pour ça que je la chante maintenant.
Sur scène, le chanteur se multiplie grâce à des hologrammes. On peut voir jusqu'à 5 Jean-Louis Aubert en même temps, une prouesse technologique.
J'adore cette alliance de science et de rêve.
Jean-Louis Aubert qui débute son premier Bataclan dès ce soir en attendant son nouvel album Refuge, attendu la semaine prochaine.
Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler.
Jean-Louis Aubert donc au Bataclan pour 8 dates, pas de concert le 13 novembre et une tournée des Zéniths dans toute la France l'année prochaine.
Merci Agnès Soubiran.